l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac,
bon plan étudiant,
chronique,
débat,
coup de gueule,
clash,
rubrique culinaire,
factualité.
C'est tous les samedis à 10h,
le mardi à 15h30, le jeudi à 15h30
et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Marmite FM 88.4. Vous écoutez l'émission Factualité, l'émission des étudiants de la fac de Saint-Quentin en Yvelines. J'ai l'honneur de présenter cette émission en compagnie de Pierre, Thomas, Eva, Noé et François. Bonjour à tous.
Bonjour. Salut.
Bonjour.
Avant de commencer avec vos superbes chroniques, nous allons parler des actualités de la fac. Troisième édition du concours d'éloquence. Rappel, pour tous ceux ne s'étant pas encore inscrits, vous avez jusqu'au 28 février pour le faire. La finale du concours aura lieu le 18 avril sur la scène nationale du Théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Et notre fac, elle en a des talents. Quatrième édition du concours Jeunes Talents. La finale s'est déroulée le 12 février. À la bibliothèque universitaire du campus des sciences de Versailles ont été récompensés 5 lauréats sur 42 candidats. Pour plus de détails sur leurs beaux projets, rendez-vous sur fondation.uvsq.fr. Passons maintenant au sport. Championnat interuniversitaire de rugby. L'équipe de l'UVSQ affrontait l'École des Ponts le 21 février dernier. Notre équipe universitaire a remporté la victoire 17 à 8. Rendez-vous le jeudi 14 mars pour la finale du championnat. L'UVSQ y jouera contre l'IESSEG. Enfin, Saint-Valentin. Il se pourrait que la fête des amoureux ait donné des idées à certains étudiants. L'occasion pour nous de rappeler que les salles de travail de la bibliothèque universitaire ne sont pas le lieu pour des galipettes. Et que les petits fripons risquent des sanctions pour exhibition ou atteinte à la pudeur. Mais cette fois-ci, Cupidon est clément. Bon, commençons cette émission plus sérieusement avec un sujet d'actualité. Noé va nous parler du Brexit.
Brexit. Allez avouez, ces deux syllabes répétées à longueur de journée l'année dernière avaient presque fini par vous manquer. Pour les platoniciens qui auraient vécu dans une caverne les 30 derniers mois, le Brexit, contraction de Britain et Exit, désigne la sortie de l'Union Européenne par le Royaume-Uni. Ça partait d'un pari un peu stupide que David Cameron, premier ministre britannique de l'époque, faisait avec lui-même. « Tenez-moi ma majorité au Parlement, je vous donne votre référendum. » Persuadé de la victoire du non pour ce Brexit, Cameron se voyait déjà à la tête d'un autre petit mandat au 10 Downing Street. Eh ben non. Le 23 juin 2016, l'Angleterre votait pour quitter l'Union Européenne à la grande surprise de la communauté internationale. 20 jours plus tard, c'est Theresa May, véritable Gollum politique, qui remplace Cameron à la tête du gouvernement. Et depuis 2 ans, la voilà en quête de son précieux accord de sortie. Un accord? Mais pourquoi faire, me demanderez-vous? Eh bien, de même que les Britanniques avaient rejoint l'Union sans tout accepter, ils comptent bien la quitter, mais sans tout laisser derrière eux. Le marché commun les intéresse bien, par exemple. Parce qu'avec toutes les critiques qu'on fait sur l'Union Européenne, on oublie trop souvent qu'elle est l'un des 3 piliers de l'économie mondiale avec les États-Unis et la Chine. Et sans l'UE, le Royaume-Uni redeviendrait une minuscule petite île de rien du tout au beau milieu d'un océan de mondialisation économique qui ne serait pas trop impacté par le départ de nos roast beef préférés. Et justement, autre péripétie de cette saga londonienne, de tout le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre qui a voté le départ, la même où l'Irlande et l'Écosse auraient préféré rester. Problème, mais que fait-on de l'Irlande, dont le Royaume-Uni ne possède qu'une partie? Doit-on créer une frontière physique entre la République d'Irlande, européenne, et l'Irlande du Nord, brexitée bien malgré elle? Ah, le beau casse-tête que voilà! D'autant que le 29 mars, date butoir où, faute d'un accord entre Bruxelles et Londres, le Royaume-Uni sera amputé de l'Union Européenne sans conciliation ni ménagement, approche à grands pas. Si le dernier accord en date n'est pas approuvé par le Parlement le 28 février prochain, ce scénario deviendra peut-être le seul envisageable. Mais alors à quoi bon cette chronique si sarcastique? Oh, ce n'est pas par anglichophobie ni par velléité sportive, pour le sport demandez plutôt à Pierre ou Thomas. Non, c'est bien plus simple. Car tant que les sujets de partiel se baseront sur l'actualité, et tant que le Brexit restera en suspens, nous, pauvres étudiants en droit, saurons à quoi nous en tenir. Alors je vous en prie, tirez les premiers, messieurs les Anglais.
Merci beaucoup, Noé. Est-ce que vous avez des questions sur cette chronique beaucoup plus sérieuse que d'habitude?
Oui. À un moment, tu dis que... Finalement, tu sous-entends que ce Brexit a un peu, n'est pas très bien parce que la communauté internationale ne le soutient pas et tout. Mais que fais-tu finalement du droit? Il n'y aura pas des droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais si un peu, c'est-à-dire les gens qui ont voté pour sortir... Il faut quand même respecter aussi cette décision. Dire le peuple est souverain, on vit quand même dans des états démocratiques. Il faut aller dans ce sens-là, non?
Je suis bien d'accord, mais comme je le disais, c'est l'Angleterre qui a entraîné avec elle le reste du Royaume-Uni avec le désaccord de 2 autres nations.
Il me semble que l'Écosse était à 60% en faveur de rester dans l'Union Européenne.
Très bien, merci pour ces interventions. Et revenons en France. Mon cher François, il me semble que tu as été choqué par les événements récents. Tu vas donc nous parler d'antisémitisme.
Oui, samedi dernier, dans la révolte jaune hexagonale, l'histoire s'est rappelée à ses heures sombres. Dans le 14e arrondissement de Paris, Alain Finkielkraut, académicien français, s'est vu être insulté, rabaissé à sa confession juive. Sale juif, rentre dans ton pays. Dieu va te punir. Tout un lot de verbes qu'un certain moustachu s'évertue à cracher. L'incompréhension semble avoir quitté les esprits d'un pays où les profanations d'enceintes religieuses montent en flèche. Un pays où il est dans les mœurs de certaines idéologies d'appeler à la haine religieuse. Plus que l'incompréhension, c'est un sentiment de consternation qui m'anime. Primo Levi écrivait dans « Si c'est un homme » que comprendre était presque justifié. La compréhension, ici, ne peut être tolérée. Quand on insulte un homme ou une femme en raison de sa foi, on insulte l'humanité. Un individu, dans la foule, a crié que l'intellectuel n'était français, que la France était celle qui voyait en lui un sale juif. Non, la France n'appartient à personne. Elle se mérite. Dans le pays tricolore, il est plus que grave de profaner la foi religieuse, plus que grave de rabaisser à la saleté les fidèles de Moïse. On ne peut pas aimer les diatribes de BHL, ne tolérer la politique colonialiste de Netanyahou. Mais dans ce conglomérat de critiques, intolérable est le fait de salir une communauté. Si Finkielkraut ne vous sied, coupez la radio, n'achetez le journal ou débranchez la télé. Mais ne faites pas ressurgir l'horreur de propos qui ont marqué l'histoire au fer rouge de la honte. Mais ce fait, au-delà de nouer l'estomac par sa gravité, donne le pouls d'une société de plus en plus en proie à la violence. Dans la fièvre hexagonale actuelle, prions que la raison regagne les esprits d'un pays plus que mal en point.
Très bien, merci François pour ce sujet très polémique. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Oui, Noé.
Oui, selon toi, quelle est la cause de cette remontée en flèche de l'antisémitisme?
Je pense qu'il y a peut-être une cause qui est assez logique politiquement si on regarde l'histoire, c'est que je pense qu'en temps de crise, chaque société a tendance à trouver des boucs émissaires. Donc là, c'est tout trouvé. Et puis je pense que aussi, si cet événement a eu lieu, c'est aussi parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme qui est liée aussi à toutes les critiques qu'on peut faire vis-à-vis du mouvement, de la mouvance sioniste, qui est une idéologie qui prône l'existence d'Israël et qui approuve aussi la politique de Benjamin Netanyahou et le fait qu'il n'existe pas de Palestine. Bref, je vais pas rentrer dans des débats comme ça, et que finalement, je pense que l'antisémitisme monte en flèche parce que on est dans un pays où les forces populistes ont de plus en plus de voix, ont de plus en plus d'écho, et que je pense que ça rassure les gens de se dire que c'est une religion qui est responsable de tous les malheurs du monde. Et le problème de tout ça, c'est que finalement, ça met dans l'eau pas mal de choses. Je veux dire, les juifs français ne sont pas responsables de la bêtise de certains intellectuels. On ne peut ne pas aimer Alain Finkielkraut et ne pas aimer ce qu'il peut dire, mais en aucun cas, je pense qu'on doit insulter sa communauté. Et je pense que c'est pareil pour tout. Je veux dire, si j'ai un problème avec quelqu'un qui est de confession musulmane, je vais pas dire sale musulman, genre je vais juste dire lui il est juste un problème, tu vois. Donc voilà, c'est ma façon de voir les choses. Très personnel, c'est pas très bien écrit. Voilà.
Merci François. Thomas, tu as une question?
Comme tu l'as dit, en fait, ça part tout simplement d'un fait divers, parce que bon, on peut pas qualifier ça de fait divers, mais c'est ce pauvre Finkielkraut qui se fait prendre par les gilets jaunes, mais en définitive, c'est peut-être là la dangerosité de l'effet de masse, puisque le gilet jaune, qui devait être sûrement entouré de beaucoup de personnes, il se sent forcément plus puissant, et ce qu'il dirait peut-être pas tout seul en face de Finkielkraut, on se sent en puissance. Et on en arrive à des horreurs pareilles, et forcément. C'est vrai que conclure là-dessus, c'est compliqué. Mais forcément, l'effet de masse, en fait, en quelque sorte, déresponsabilise certaines personnes qui se cachent derrière le gilet jaune pour exprimer une haine personnelle. Quoi.
Oui, et puis, excuse-moi de te couper, mais puis c'est ça aussi qui fait peur, c'est le fait qu'il y ait carrément un groupe de personnes qui s'en prennent à un homme seul. C'est ça qui est effrayant. Je vais pas faire de comparaison avec l'histoire, mais ça fait quand même un peu froid dans le dos. D'autant plus que ça intervient alors qu'il y a eu notamment pas mal de profanations antisémites en France. Je pense notamment à la vitrine d'un Bagelstein qui a été tagué avec marqué Juden dessus, à une boîte de poste où il y avait un tag de Simone Veil, où il y a une croix gammée qui a été faite dessus. Je ne parle pas des profanations de cimetières juifs, hein, c'est quelque chose de grave.
Très bien, merci Noé, tu avais une intervention.
Et juste, est-ce que, à ton avis, ça peut être lié avec, d'une manière générale, la montée des extrêmes
Oui. Oui, parce que en plus, enfin après, là, les enquêtes qui ont été faites après sur celui qui avait justement été qui avait tenu les propos les plus violents que j'ai cités à l'encontre d'Alain Finkielkraut, et ça a été prouvé qu'il a fait du militantisme notamment dans pas mal de mouvements d'extrême gauche. Après, bon, il a été affilié à des mouvements salafistes. Enfin, ça, bon, je laisse cette analyse aux journalistes de BFM TV, mais je veux dire. C'est lié parce que justement le cas d'un parti comme le Front National a été créé par des antisémites. C'est quelque chose qui gangrène les partis et qui finalement maintenant gangrène aussi le mouvement des Gilets jaunes qui à la base se voulant apolitique sombre dans une folie, on va dire, la revendication, on ne sait plus vraiment ce qu'ils demandent, et puis dans ce marasme de revendication plus ou moins justifiable, et bah il y a de la bêtise qui s'insère.
Oui, d'autant qu'il me semble qu'il y a eu un mouvement de gilets jaunes qui demandait l'introduction de la proportionnelle pour les élections présidentielles.
Oui.
Voilà.
D'accord.
Merci.
Enfin, je veux dire, tu prends quoi, le nez de Marine Le Pen, tu le colles sur la tête de Macron.
Enfin, non, mais je pense que ça répond. Enfin, il y a une vraie crise démocratique, mais je pense pas qu'insulter quelqu'un soit la meilleure des manières. Autant je pouvais soutenir le mouvement au début, maintenant je m'en désolidarise un peu, ça part un peu dans tous les sens, ça perd son sens.
Très bien, bah merci à tous pour ce débat. Et pour rester dans la polémique, mais sur un sujet peut-être un peu plus léger, passons à la chronique de Pierre qui va nous parler du business de Saint-Valentin.
Aujourd'hui, sujet beaucoup moins politique qu'à l'accoutumée. Fini les mauvaises blagues sur Kevin, le préado en surpoids. Exit l'humour noir sur l'IVG et enfin terminer la critique facile sur nos amis fonctionnaires. Non, aujourd'hui, c'est bien une chronique soft, sans les pics habituels que je peux lancer. Une chronique au bord arrondi et qui, je l'espère, devrait plaire à tout le monde. Parce que sinon, ce serait vraiment pas de peau. Il y a maintenant une dizaine de jours, s'est déroulée une fête adorée par certains, mais surtout haïe par la majorité, la Saint-Valentin. Pour les couples, c'est l'occasion de se prouver un amour passionnel et inconditionnel, quand, pour les commerçants, c'est surtout un moyen de s'en mettre plein les poches. Premier exemple, les fleuristes. Amoureux des parfums envoûtants, de la beauté botanique, ou surtout des billets verts en pagaille, ces pépiniéristes expérimentés ont su s'adapter à la forte demande de ces garçons ou de ces filles, en manque total d'inspiration. Pour pas les chiffres, c'est près de 30 000 bouquets qui seront expédiés partout en France pour une moyenne de 40 euros par commande. Deuxième moyen de faire plaisir à sa moitié le soir de la fête de Valentin, inconnu au bataillon par ailleurs, le restaurant. Classique du couple sans prétention romantique démesurée, le fameux dîner aux chandelles attire chaque année des milliers de Français. Selon le site Atabula, la moitié des couples y dépenseront entre 25 et 50 euros, quand moins de 10% feront des folies avec un repas à 100 euros, toujours par tête de pipe. Un moment qui soulève également la question tant attendue. Qui doit payer l'addition? Donc cette question, je vous la pose à vous, les chroniqueurs.
Eh bien, en fonction de ce que chacun a mangé, on fait une proportionnelle et chacun paye sa part. Hein, voilà.
Eva, je vois que tu réagis. Ton avis sur la question.
Celui qui a le plus d'argent paye, pour moi. C'est une question de pragmatisme, c'est tout.
Bref, on va enchaîner. Donc la Saint-Valentin, avant d'être une question d'argent, c'est surtout l'apogée de l'amour, de l'ouverture à l'autre. Et bien sûr, dans la plupart des cas, un coït sous la couette. C'est pour ça que je vais terminer sur certaines boutiques d'articles coquins qui se voient envahis par des consommateurs en recherche de nouvelles émotions. Menottes, boules de geisha ou jeux de gages pour les plus mesurés, tout est bon pour prendre du plaisir. Sur ce, les amis, je vous laisse, j'ai quelques recherches à faire pour l'année prochaine.
Merci Pierre.
J'adore le petit François. Bruit de Pierre à la fin de sa chronique, le comme ça. C'est sympa, ça fait.
Non, mais en vrai, moi, ce que je peux ajouter, c'est que j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes autour de moi qui étaient en couple et qui disaient que la Saint-Valentin, pour elles, ça représentait rien parce que justement, ça devenait une fête trop commerciale et qu'elles, elles estimaient qu'il y avait. Bon, c'est une phrase un peu fleur bleue, qu'il n'y a pas un jour spécial dans l'année où il faut avoir conscience qu'on aime l'autre ou. Je ne sais quoi. Et...
Ils sont radins, quoi.
Non, justement. Et c'est une fille avec laquelle je discutais qui disait justement que si elle allait au restaurant avec son copain, c'était juste pour avoir une... C'était juste une occasion pour y aller et que justement, ils se partageaient l'addition selon qui avait mangé quoi.
L'amour est un plébiscite de tous les jours.
De qui?
J'ai modifié la citation d'Ernest Renan.
Très bien, merci François.
Qui est à la base, la nation est un plébiscite de tous les jours.
C'est très beau.
Merci. Notre dépôt est autour de la table. Ouais.
Mmh. vous aviez passé la Saint-Valentin seul, vous pouvez toujours vous reporter sur le sport. Et c'est Thomas qui va nous parler de ski.
Ah, allez, ouais. T'es piquante, Céline, en ce moment, c'est bien. J'apprécie. Eh ouais, moi j'ai passé la Saint-Valentin seul, mais j'ai regardé du ski. Ouais, ce matin, Alexis Peintureau, tout simplement inarrêtable en cette fin de saison. Le tout récent sacré champion du monde du combiné à Are a remis ça ce matin, donc à Bansko, en Bulgarie. Le combiné, épreuve sur deux manches, mélangeant les deux disciplines reines du ski alpin, à savoir la descente et le slalom. Cette discipline réussit bien mieux aux slalomeurs qu'aux descendeurs ces dernières années. Si l'épouvantail du ski moderne, Marcel Hirscher, trône en maître sur le circuit, Peintureau, le skieur de Courchevel, s'est tout simplement invité à la table de l'Autrichien. Seul véritable athlète avec un autre français, Clément Noël, à tenir tête au leader du général. Cette victoire à Bansko est d'autant plus savoureuse pour Peintureau qu'elle lui offre le globe de la spécialité, venant récompenser la régularité du Savoyard.
Merci Thomas. Est-ce que vous avez des questions ou une intervention à faire sur ce sujet ?
Ça passionne pas les foules le ski ?
Comment tu peux expliquer que le ski ne passionne vraiment pas même on sait qu'il y a une semaine maintenant, une semaine ou deux, il y avait les championnats du monde, pourquoi on a eu 4 ou 5 champions du monde, si je dis pas de bêtises. Pourquoi ? Enfin, je veux dire ça sèchement, pourquoi tout le monde s'en fout, en fait ?
Bah, le ski, c'est quand même une pratique qui n'est pas appréciée par tous. Hein. Y a, de manière, quand on parle de ski, y a les puristes d'un côté et ceux qui n'ont peut-être jamais skié de l'autre. Puis après, la compétition, c'est encore différent parce que beaucoup des gens qui aiment skier ne sont pas forcément attirés par la compétition. Moi, par exemple, j'adore skier, mais j'ai pas mon premier flocon ni n'importe quoi, enfin n'importe quelle spécificité qui serait propre au ski qui se professionnalise. Et après, c'est quelque chose de quand même assez dur à suivre, le ski. Ça change beaucoup, ça bouge beaucoup. Donc c'est vrai que ça peut être un peu lassant, et puis c'est toujours la même chose. Et donc moi, là, ce que je suis beaucoup, c'est le slalom, parce que c'est là où nos deux Français, donc Clément Noël et Peintureau, sont plutôt bons. Il faut savoir qu'en fait, les épreuves, donc c'est durant l'hiver, évidemment, on parle de ski, mais c'est vraiment pas toutes les semaines. Ça, donc sur une semaine, vous pouvez avoir les trois monstres, qui sont Schlalmink, Wengen et Kitzbühel. Et après, attendre un mois pour avoir une nouvelle course, quoi. Donc c'est quand même assez compliqué à suivre. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un intérêt majeur. Mais bon, après. Et puis il y a aussi la question des droits. Qui a Eurosport aujourd'hui ? Quasiment personne. Donc forcément, pour regarder, c'est plus compliqué. Voilà.
Mais il n'y a peut-être pas aussi l'idée que c'est un peu un sport de niche, dans le sens où déjà le ski, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir en faire. Je parle en termes financiers. Et puis aussi, parce que vu que c'est un sport qui se pratique sur un certain climat, genre tu vas pas faire du ski en région parisienne. Ce qui explique que finalement il n'y a pas énormément de personnes qui de base soient concernées et qui puissent être de futurs spectateurs, parce que par exemple ceux qui regardent le foot, bon je prends le cas d'un sport très populaire, mais le foot, le basket ou le handball, c'est des sports qui sont pratiqués par beaucoup de gens,
qui sont beaucoup médiatisés aussi.
Et qui sont aussi beaucoup médiatisés, mais qui sont très pratiqués et qui du coup il y a un certain terreau de spectateurs potentiels.
Non mais c'est ça, t'as plutôt bien résumé la situation.
Moi dans ton cas je suis pareil, je sais skier mais je regarde pas les skis, quoi.
C'est ça, moi je m'y suis mis depuis un peu depuis cette année et je dois bien avouer que c'est quand même beau, quoi.
Très bien, et bien restons sur le domaine du loisir et nous conclurons cette émission avec une idée de sortie peut-être pour vous ce week-end, et c'est Eva qui va nous parler d'Alita.
Et oui Céline, ce week-end je suis allée au cinéma pour voir un film qui était très attendu depuis environ 15 ans par notamment les jeunes nés dans les années 80 ou 90. Ce film, c'est Alita. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce film sur les réseaux sociaux. Donc qu'est-ce que c'est Alita ? En fait, c'est un film de science-fiction américain qui est adapté d'un célèbre manga qui s'appelle Gun ou Goon. Il y a plusieurs prononciations possibles. Ce manga a été créé par Yukito Kishiro entre 1990 et 1995. De quoi ça parle ? Le manga raconte une dystopie qui se déroule au 26e siècle. Le monde, après une catastrophe naturelle, se divise en deux entités. Et en fait, ce sont deux villes. Donc d'un côté, on a Zalem, qui est la ville paradis au plus proche du ciel. C'est une ville suspendue où on ne sait pas grand-chose de cette ville. Et de l'autre côté, il y a Aaron City, qui est une véritable ville poubelle. En fait, c'est la ville des charges de Zalem. Lorsque Zalem veut se séparer de quelque chose, que ce soit d'un humain ou d'un cyborg ou d'un meuble, elle le jette par-dessus leur côte flottante jusqu'à Aaron City. Donc, Iron City, c'est vraiment une ville qui est remplie de cyborgs et d'humains. On peut être mi-cyborg, mi-humain aussi. Donc, Alita. Oui, c'est très compliqué. Alita, donc Gali dans le manga, et le reste, en fait, d'un cyborg mi-humain. Donc, elle atterrit dans Iron City, et un jour, elle se fait repérer par un docteur en cybernétique qui est autre que Ido. Ido la repère, et sans vous spoiler vraiment, Ido a perdu sa fille. Donc, lorsqu'il voit Alita dans la décharge, pour lui, ça va être comme sa deuxième fille. Donc, il va la remettre en pièces, vu qu'elle a un cerveau humain, mais c'est un cyborg. Il va la remettre en pièces et c'est là que tout va commencer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Gali, donc Alita, en fait, le nom Alita a été choisi par James Cameron. Donc en fait, le film est réalisé par Robert Rodriguez, mais qui en fait est chapeauté par James Cameron. D'accord. Donc voilà, c'est un gros James film. Cameron. Et en fait, Alita a été choisi parce qu'apparemment, c'est plus simple à prononcer pour les Américains. Alors que Gali est quand même un nom très simple, mais bref. En fait, ce qu'il faut savoir sur ce film, c'est que Alita, c'est le début et c'est la fin de ce film. C'est vraiment le seul but, c'est de savoir qui elle est. Puisqu'on apprend qu'elle est amnésique, elle ne se souvient plus de son identité, donc on est d'accord que si elle est à la décharge, c'est qu'elle était à Zalem. Et en fait, le but de tous les habitants d'Aaron City, c'est d'aller à Zalem. Donc lorsqu'ils croisent une fille qui a été, mais qui malheureusement est amnésique, bah, ça fait un gros scénario potentiel. Et donc on apprend que... Il n'y a pas de spoil, mais on apprend que c'est une... Alita, c'est tout simplement une héroïne qui adore se battre. Tout le temps, c'est dans ses gènes. Donc voilà.
Grosse rédemption en perspective.
Et donc voilà. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film. Et pour la petite critique, sans spoil évidemment, au niveau de la réalisation, c'est un très très beau film. Ça a été fait avec des FX. Donc en gros, Alita, c'est une vraie actrice. Simplement, son visage, c'est comme un visage dans un manga en fait. Il faut regarder le trailer pour voir, c'est très beau. Et donc il y a beaucoup beaucoup de budget, des millions de dollars. Et en fait la réalisation est très belle, le jeu sur la lumière est très très beau, parce que plus le film est sombre, plus la lumière s'assombrit. Et au niveau du jeu d'acteur aussi, c'est vraiment parfait. Et surtout c'est un film qui a été vraiment bien aimé par les gens qui ont lu le manga. Et c'est au final très important. Dans la majorité, c'est un film qui a été bien aimé, après il n'est pas parfait. Et aussi, allez voir ce film, parce que si vous n'allez pas le voir, ils ne vont pas faire de suite, vu que ça coûte beaucoup d'argent. Voilà, donc s'il vous plaît, allez le voir.
Merci, merci Eva. Est-ce que vous avez des questions, ou est-ce que certains comptent aller le voir? Thomas.
Alors, tu as dit que c'était un Z-topic ou un Z-topic, je sais.
Une dystopie.
Une dystopie, d'accord, bah, j'ai pas le compris, mais je ne sais pas non plus ce que
alors, ça veut dire. Alors, en fait, c'est le contraire d'une utopie. Donc, c'est un monde vraiment, un monde où t'as pas du tout envie de vivre,
d'accord.
Tout va mal.
Oui, donc c'est très...
Noé.
Et juste, rien qu'au nom, on a Jérusalem, Iron City et tout. Est-ce que le sous-texte religieux est présent au-delà des noms?
C'est drôle que t'aies deviné Jérusalem parce que...
Jérusalem, ça va quand même.
Bah, en fait, y a une dimension religieuse, mais sans plus. En fait, c'est-à-dire qu'il y a simplement Zalem, qui est très religieuse dans le sens où elle est le plus proche du soleil possible, donc le plus proche des dieux ou du dieu. Et c'est vraiment un paradis, donc oui, il y a une dimension religieuse. Bravo d'avoir trouvé Jérusalem, parce que c'était la fin du manga.
Plus
voilà.
Important. Ouais.
Mais alors du coup, le film, il est sur les 9 tomes?
Non, en fait...
Ou il est que sur un des tomes, ou c'est un genre de truc d'origine story? D'accord, ok.
Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... Donc l'œuvre originelle, c'est 9 tomes. Après, il y a eu des suites, il y a eu même des romans et un AOV, donc un animé. Un OAV, pardon, un animé. Et voilà, ouais, c'est sur 3-4 premiers tomes. Okay. Et c'est pour ça qu'après, ils vont peut-être
arrêter. Est-ce que si je n'ai jamais lu le manga, je peux comprendre...
Oui.
D'accord, ok. Parce que je vais le voir ce soir. Donc,
aussi, ah, va le voir. Il non, est mais... trop bien.
Avec qui? C'est ça qu'on veut savoir.
Ma mère.
Ah, c'est trop bien.
Vive la
Saint-Marie. Non, c'est pas vrai. J'ai pas avec ma mère. Mais... Secret défense. Mais ok, d'accord.
Ouh. Non, honnêtement, tu peux tout comprendre et limite. Mais en fait, ce que tu vas, je pense, kiffer, c'est que ça va limite te donner envie de lire les mangas. Sachant qu'il y a 9 tomes, ça va hyper vite. Tu vas tout comprendre et si t'as envie de lire, c'est parfait.
Ok, bah, je te remercie.
Et bien, c'est sur cette chronique que s'achève notre émission. Alors, je remercie tous les chroniqueurs qui m'ont accompagnée pendant Factualité. Je remercie Nouradine aussi et Julien au montage. Et tous nos chers auditeurs. En attendant la prochaine émission, vous pouvez toujours nous retrouver sur notre compte Twitter Factualité78 et sur notre page Facebook Factualité UVSQ. Merci à tous, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Salut. Au revoir. Factualité.
l'émission des étudiants de l'UVSQ.
Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines.
Actu de la fac.
Bon plan étudiant.
Chronique.
Débat.
Coup de gueule.
Clash.
Rubrique culinaire.
Actualité.
C'est tous les samedis à 10h.
Le mardi à 15h30.
Le jeudi à 15h30.
Et le mercredi à 20h.
Factualité sur Marmite FM
88.4.